Bonjour Alain-Yvette Boncœur.
Bonjour.
Je vous surprends en pleine lecture.
Oui.
Je dois vous faire un aveu, j'ai beaucoup rêvé à vous dans derniers jours, oui.
C'est moi, c'est moi.
Je vous explique parce que je lisais votre dernier livre, « Les acteurs ne savent pas mourir ici » d'un urgentologue, avant de me coucher, donc dans mon lit. Et la nuit, je rêvais que je vous assistais, je réanimais des cœurs.
Vraiment?
Oui, certainement. Un petit peu quand on lit un livre policier, un roman policier ou quoi que ce soit, donc on est vraiment emprunt du récit. Et je vivais des nuits quand même pas très reposantes parce que j'étais prise dans cette adrénaline-là.
Donc, les images vous poursuivaient?
Oui, certainement. Et parfois, des images assez bouleversantes parce que vous les décrivez plutôt bien dans ce livre-là. Vous qui travaillez, vous êtes chef du service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Vous travaillez comme urgentologue depuis près de 25 ans. Vous avez voulu écrire ce livre-là. Pourquoi?
Bien, c'est une question que je me suis posée et qu'on m'a posée à quelques reprises. Je ne pense pas qu'il y a de réponse parfaite, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pour témoigner de cette réalité-là, qui évidemment est très proche de moi, ma réalité professionnelle depuis 25 ans, où il se passe plein de choses, des choses intenses, des choses des fois difficiles, des choses aussi très heureuses, que les gens connaissent assez peu, de manière générale, je dirais. Donc, témoigner à la fois pour qui sont les gens qui font ça comme médecins, comme infirmières, comme personnel, pour les patients aussi, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce que les familles vivent. Donc, je dirais que c'est un peu un témoignage, une volonté de partager ces moments-là qui prennent beaucoup de place quand même dans ma vie.
Il y a quelque chose qui ressort beaucoup dans le livre, à mon sens bien sûr, c'est cette dualité-là entre l'homme et le médecin. Il y a un passage qui m'a beaucoup marqué où vous relatez le passage en fait d'une jeune femme et de son père à l'urgence, gravement atteint dans un accident de voiture, et le papa étant conducteur en état d'ébriété, il mentionne qu'il veut mourir. Et l'un de vos collègues lui répond, nous, on n'est pas là pour juger. Finalement, vous allez réussir à sauver le père, vous allez perdre la jeune fille et le père quittera pour la prison après son passage à l'hôpital. Ce rapport-là au jugement, je veux dire, le médecin ne juge pas, il soigne, mais l'homme peut juger. Comment on apprend à soigner sans juger?
Mais dans tout, dans ce métier-là, on est pris dans des situations très variées qui peuvent être émotivement très chargées, on comprend. Donc, il y a toujours la personne et le médecin qui doit soigner, qui doit réussir, surtout à l'urgence, à fonctionner malgré cette charge émotive-là. Et la personne qui vit ça quand même, d'une certaine façon, surtout quand il y a des situations très particulières comme celle-là, quand il y a des morts d'enfants, quand il y a de la violence, c'est toujours, ça vient nous chercher. C'est difficile? Bien, c'est difficile. Ça fait partie du métier de composer avec ça. On n'a pas le choix. Il faut à la fois être capable de soigner la personne, peu importe qui elle est, peu importe ce qu'elle a fait. Il faut vivre les émotions qui nous traversent. Et des fois, c'est un peu difficile. Des fois, ça prend un peu de temps pour récupérer de ça. Mais c'est la définition même de ce qu'est un médecin d'urgence ou quelqu'un qui travaille dans un contexte comme ça. Il faut être capable d'agir malgré tout ce qui se passe, dans le fond.
Oui. Vous avez, et ça, c'est assez clair dans le livre, vous êtes arrivé à composer avec la mort.
Mm-hmm.
Ça, c'est quelque chose, on sent que vous êtes plutôt à l'aise avec ça, c'est-à-dire annoncer la mort à des gens qui viennent de perdre un proche. Êtes-vous à l'aise avec la vôtre? Parce que vous avez passé souvent près de mourir.
Oui, bien, j'ai constaté ça moi-même quand j'ai fait dans un chapitre la recension de mes aventures. Il y en a qui disent que j'en ai plus que la moyenne. J'avoue que je n'avais pas remarqué ça, mais en particulier du côté de l'automobile.
Les carottes aussi.
Oui, c'est sûr. Non, j'avoue que, bon, il m'est peut-être arrivé. Enfin, pas grand-chose finalement, mais des accidents. Mais composer avec la mort, ça vient graduellement.
Ouais.
On comprend que quand on commence, quand on est étudiant en médecine ou quand on est confronté à nos premiers arrêts cardiaques, c'est des expériences bouleversantes. À un moment donné, on se rend compte que ça fait partie un peu du métier, un peu comme un chirurgien qui va ouvrir le crâne d'un patient. Bien, quand il voit le cerveau, il ne se met pas à pleurer, là, il fait son métier. Donc ça, c'est la partie qu'on doit apprendre. On doit apprendre à composer avec ça. Moi, j'ai l'impression, puis je le dis dans le livre, que côtoyer les gens, la mort, ces expériences-là, m'a appris, je pense, à vivre avec une certaine sérénité, avec l'idée de ma propre mort. J'ai l'impression, je n'éprouve pas d'angoisse particulière par rapport à ça. Et je dirais que c'est peut-être aussi à force d'en parler,
ouais,
de travailler sur le sujet, de faire des textes là-dessus, d'explorer ce sujet-là, que dans le fond, j'apprends à mieux le connaître. Comme tout, hein, quand on parle de quelque chose, on s'habitue à cette chose-là d'une façon ou d'une autre.
Donc, on peut arriver à l'apprivoiser.
Ouais.
Ce qui est assez fascinant aussi à la lecture du récit, c'est quand il arrive quelque chose, soit à vous ou à l'un de vos proches, vous arrivez avec les symptômes très rapidement. Ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Donc, le médecin n'est jamais bien, bien loin.
On ne sent pas l'urgentologue de l'homme. Puis ça, inévitablement, ça colore tout ce qui est ma relation avec des symptômes, que ce soit les miens ou ceux des proches, quoi que ce soit. J'ai tendance à relativiser beaucoup de choses. Par exemple, avec mes enfants, c'est très rare que je m'inquiète et ce qui fait parfois enrager ma conjointe qui est infirmière, parce que dans le fond, je sais que la plupart des trucs qui arrivent aux enfants, c'est des virus, il n'y a pas vraiment de conséquences. Par rapport à mes propres symptômes, j'ai tendance à analyser très rapidement ce qui peut se passer. J'ai déjà eu ce qu'on appelle une diverticulite et j'en fais un petit bout de chapitre dans le livre où j'étais un peu, je pense que je n'étais pas un très bon patient parce que j'essayais de tout contrôler en même temps.
Et votre collègue qui vous dit « trouve-toi un autre patient ».
Oui, il ne veut plus rien savoir de moi.
Un autre médecin plutôt.
Ou dans le récit, de dernier récit par rapport à mon père, où je suis à la fois le médecin et le fils. Et là, c'est peut-être moins évident parce que comme médecin, je vois venir les choses bien à l'avance des autres, dans ma famille évidemment.
Ouais.
Je comprends les réalités cliniques. Et là, il y a comme un décalage entre la personne qui vit des choses, des émotions, et le médecin qui continue à réfléchir. Donc, je pense que je vis assez bien avec ça, mais c'est une réalité, effectivement, qui est un petit peu particulière, un peu mélangeante.
Oui, la mort de votre père qui prend de la place dans ce livre-là, d'ailleurs, les dernières pages. Mm-hmm. Petite confession, j'ai reçu votre sœur, Hélène Vadeboncœur, qui était à votre place il y a de ça quelques mois, chercheure en périnatalité. Et hors micro, pourquoi? On ne connaît pas toujours l'origine des conversations. Elle m'a parlé de la mort de votre père et m'a dit « Une chance qu'Alain était là ».
Ah bon?
Et on le comprend bien dans le livre, et c'est ce qu'elle me racontait aussi, parce qu'il y a cette compréhension-là de l'hôpital, de comment ça fonctionne, de pouvoir doser, tout ça. Ça a dû aider quand même le décès de votre père, cette connaissance-là de la médecine.
Bien, aider, probablement pour mes proches, oui, jusqu'à un certain
point.
Pas
nécessairement pour vous.
Bien, pour moi, c'est un peu complexe parce que, par exemple, moi, en plus, il est dans un hôpital, l'hôpital général juif, où je connais pas mal de monde, dont les médecins d'urgence. Et évidemment, on me montre les choses. Hein, comme médecin, donc, je travaille à l'hôpital moi-même. On me montre quand le scan est fait, mettons, on me le montre, le scan du poumon. Et moi, je suis capable de lire les examens. Donc, je regarde ça, l'image, je me dis « Oh my God, cette pneumonie-là est catastrophique. » Et ça, c'est une information qui, d'habitude, ne se rend pas de cette forme-là jusqu'à un proche. Là, c'est pas filtré du tout. Donc, je dois vivre à la fois le cas clinique, qui est, bon, une pneumonie, qui va affecter mon père pendant 2 semaines au point ça devient irréversible à un moment donné. Et le fils qui vit en même temps ce parcours-là. Donc, c'est un peu particulier.
Et qui doit faire son deuil aussi.
Et qui doit, qui avance vers le deuil, donc qui est dans la tristesse, la déchirure que ça cause. Donc, mais ça, c'est un... J'ai l'impression que le métier d'urgentologue permet de vivre ça relativement... On est toujours là-dedans. Mm-hmm. On est dans des émotions déchirantes avec une famille qui vient de perdre un proche. 2 minutes après, on voit un cas loufoque. 10 minutes après, on mange, on prend un café avec le personnel. Autrement dit, on est toujours en train de changer et de voir plusieurs aspects de la réalité. J'imagine que ça peut aider, mais c'est sûr que ça ouvre des portes à une connaissance très particulière de ce qui se passe avec son père ou avec d'autres gens.
En tant qu'urgentologue, on vous demande de sauver des vies. Quel est le rapport avec des gens qui arrivent à l'urgence parce qu'ils se sont enlevés la vie? Et ça, vous le décrivez aussi dans le livre.
Ça fait partie, surtout quand je travaillais dans une urgence générale à l'époque, c'est quelque chose qu'on voyait quand même assez souvent. Et là, ça peut être soit essayer de s'enlever la vie. Évidemment, si la personne réussit, bien là, c'est de la réanimation. On n'est plus du tout dans la même sphère. Mais je voyais aussi beaucoup de patients qui voulaient attenter à leur jour. Et comme médecin, on a la responsabilité d'empêcher ça, ce qui est un pouvoir un peu particulier. Parce que moi, je peux contraindre quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours. Bien, vous êtes en dépression. Vous n'êtes pas un malade terminal, là. Je vais vous empêcher de faire ça. Mm-hmm. Jusqu'à ce qu'un psychiatre vous voie, par exemple, s'il y a une dépression sévère. C'est un peu... cette relation-là avec les patients, c'est complexe, là. On a des responsabilités face aux patients qui sont très étendues. Mais évidemment, au-delà de tout ça, c'est toujours la famille et les proches où il y a une intensité, peu importe de quoi on parle.
Les acteurs ne savent pas mourir ici d'un urgentologue. Il faudrait que vous revenez pour nous parler de l'origine du titre, parce qu'on a déjà
un titre mystérieux.
Oui, tout à fait. Ben, ça vaut la peine de le lire, édité chez Lux. Ben, merci beaucoup, Dr. Malmoncœur. On peut vous lire également dans le blog de l'actualité.
Oui, merci à vous.
Ben, on se retrouve demain. Bye-bye.